Merci. Eh bien, ce soir, deuxième partie de notre émission, titre « La presse en général, Radio Courtoisie en particulier ». Ce sera l'édito d'Henri Foucrot. Présent dans le studio, Jacques Myard, membre honoraire du Parlement et maire de Maison Lafitte, Jacques Myard dont le dernier ouvrage paru est « Quand la France se déchaînera », point de suspension, le brûlot de l'année chez JDH Éditions, 15 euros.
Il faut le faire vendre.
Voilà. Voilà, il faut bien le montrer. Mais présent dans le studio, et là c'est un grand plaisir que nous avons, la présence et la participation surtout du général Jean Menu, qui est général de l'armée de l'air, deuxième section, ancien chef du cabinet militaire de deux premiers ministres, ancien commandant de l'opération Épervier au Tchad et de bien d'autres choses. Eh bien nous allons parler après l'édito du domaine du général Jean Menu, c'est-à-dire des opérations qui sont en cours, j'imagine.
Non, la défense.
De la défense. Voilà. Budget. Ah, voilà. Alors ça, c'est la préparation. Et je passe la parole tout de suite à Henri. Ah.
Merci Alain. Merci Jean Menu, mon général. Très, très heureux de vous voir revenir après cette période extrêmement difficile que vous avez traversée. J'avoue qu'on a eu quelques inquiétudes, mais alors là, on vous retrouve, c'est bien, content. Jacques Myard me disait hier au téléphone, tellement heureux d'apprendre qu'il peut à nouveau participer à nos émissions, c'est quelque chose de fantastique. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la presse en général. Pas n'importe laquelle d'ailleurs. Je vais vous parler de Radio Courtoisie, car nous fêtons notre 20e année d'animation du libre journal de la France Libre, 20 ans, Jacques. Hein. 20 ans, et malgré le temps passé, cette radio nous colle toujours au cœur et au corps, comme le chante Laurent Voulzy. Comment pourrait-il en être autrement? Au moment où la presse en général est touchée au cœur, la télé moins regardée, la presse écrite moins lue, la radio moins écoutée, notre radio gagne chaque jour un peu plus d'auditeurs. Alors bien sûr, nos réseaux, Internet aussi, et surtout nos associations sont des relais importants pour la diffusion de nos émissions et nous ne cessons de les dynamiser. Je rappelle le dernier livre de Jacques Myard, non pas son livre, mais sur la maison, vivre à Maison Lafitte, où Radio Courtoisie est en photo. Il y a Jacques Myard, Olivier Gohin et moi en photo. Sur le livre, vous voyez, on fait de la publicité partout où il est possible. La presse diminuée est toujours un danger pour la liberté. Ce n'est que lorsqu'elle est libre, et battons-nous pour qu'elle le reste, qu'elle est un outil de liberté, de démocratie, de grandeur et d'honneur pour un pays tel que le nôtre. Chaque jour, chaque Français doit se poser la question de savoir si son pays possède toujours une presse libre. Parce que le mondialisme imposé par des idéologues intéressés a fait que nos entreprises se sont délocalisées, le commerce a périclité, l'agriculture a été laminée sans que les Français se soient beaucoup battu pour qu'il en soit autrement, laissant le politique tout abandonné. L'information pivot de notre démocratie pourrait aussi prendre ce chemin pour laisser la place à des plateformes étrangères, aux réseaux sociaux qui égrènent de l'information très manipulée, qui sert en priorité l'intérêt financier mondialisé. En vérité, elle le transforme à des géants américains ou des géants chinois. Alors, au service des auditeurs de Radio Courtoisie pour défendre l'essentiel, 20 ans, cela peut paraître un sacré bail. Oui, mais quand on aime toujours, on a toujours 20 ans. Et j'aime toujours Radio Courtoisie pour la liberté qu'elle procure. 20 années passées à dire ce que je pense, ce que j'espère pour mon pays, sans que jamais je n'ai reçu la moindre remontrance. La liberté, c'est pouvoir dire ce que l'on doit dire au moment où il est important de le dire. Rappelons Voltaire. Je n'aime pas ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Je me doute bien que je ne peux pas plaire à chaque fois à tout le monde, mais on nous laisse nous exprimer. Merci Radio Courtoisie et vive la France. Je l'aime cette radio et comment pourrait-il en être autrement? Je vis et fais vivre une aventure dont il suffit de rappeler les événements. 2006, premier invité Jacques Myard, qui restait le fidèle des fidèles. À ses côtés, pour cette première fois, Charles Pasqua qui avait tenu à participer. Ce combat à mener était celui pour l'indépendance et la souveraineté de la France. Nous participons au sein du clan souverainiste à l'écriture d'un livre en commun, la tragédie européenne et la France, Pierre Messmer, Étienne Buron-Desrosiers, de l'ancien ministre Jean Charbonnel, l'amiral Debray, l'ancien garde des Sceaux Jean Foyer, Paul-Marie de Lagorce, Pierre Lefranc, collaborateur du général de Gaulle, l'ambassadeur de France Pierre Maillard, ancien conseiller diplomatique du général, général Pierre-Marie Gallois, père de notre dissuasion nucléaire, Jacques Myard, député, et votre serviteur, ont inscrit leur nom au bas du parchemin, édiction François-Xavier Guibert. Sacrée carte de visite qui ouvre bien des portes, presque toutes ces personnalités étant venues dans nos studios. Notre micro nous sert à dénoncer certaines dérives. Les dépenses publiques, par exemple, qui sont passées en un temps record de 40,9% à 57% du PIB, mais aussi de 35% dans les années 60 à 57% aujourd'hui. Il nous sert à expliquer les raisons de ce naufrage qui sont la politique mondialisme libre-échangiste, le système des taux de change flottants et la déréglementation totale des mouvements de capitaux. Pas facile à dire, pas facile à faire comprendre, pas facile à rentabiliser de tels propos jamais tenus par la presse en général, mais Radio Courtoisie, qui ne vit que grâce aux dons de ses auditeurs, échappe à ce carcan intéressé, car, et heureusement, il s'agit désormais d'organiser des conditions de survie de notre pays, la France. Alors nous nous battons contre les faiseurs d'abandon, et Radio Courtoisie est le seul relais capable de nous permettre de mener ces combats. La question que l'on pourrait nous poser... Est-ce que vos interventions servent à quelque chose ? Oui. Et il suffit de rappeler notre combat pour les eaux territoriales. C'est grâce à nos éditeurs que nous avons pu faire sortir le dossier des placards et obliger le pouvoir à négocier. Depuis, France, deuxième puissance maritime mondiale, nous avons réussi à faire venir au micro de Radio Courtoisie le député devenu sénateur Philippe Folliot, le député d'alors Jacques Myard, le député de Mayotte Mansour Kamardine, des auteurs comme Ziavig Louis de l'équipe de Chaban. Nos cris ont éveillé des gens qui, laissant faire par peur de ne pas écouter. Ensuite, il y a eu la TVA sociale. Henri Guénaud est venu à ce micro nous expliquer qu'il avait tenté l'expérience, sauf que Sarkozy n'avait rien compris et avait fait ajouter de la TVA à la TVA ce qu'il ne fallait pas faire. Mais cette histoire de TVA sociale reviendra. Alfred Alstom, le libre journal de la France, fut le premier organe de presse à sortir Petrucci de l'anonymat pour l'installer devant un micro. Nous avons ainsi pu récupérer Alstom et les turbines Arabel. Nos combats en faveur de la réindustrialisation aidés par Gigi Gicquello et ses équipes, l'agriculture avec notre ami ancien ministre François Guillaume avec lequel je prépare une attaque sérieuse contre l'euro. Rappelons notre réunion l'euro de tous les risques avec Marie-France Garraud, Couve de Murville, Charles Pasqua, Maurice Schumann, qui me fait revenir dans ces milieux, Philippe de Villiers, Henri Guénaud et Jacques Myard. Tous, ou presque, ont été nos invités au micro de Radio Courtoisie. Rappelons que ce fut notre émission qui a été la dernière à pouvoir interroger Marie-France Garraud. La grande dame était déjà atteinte par sa terrible maladie. Les taxis, nous les défendons, nous dénonçons la tentative de fonds américains d'ubériser notre société. L'intelligence artificielle, nous poussons des jeunes comme Éric Lemaire qui me fut préfacé à son dernier livre. Radio Courtoisie nous permet de nous battre pour l'indépendance de la nation. Alors nous exprimons notre volonté pour un État fort, interventionniste que lorsque l'intérêt général est menacé, libéral lorsque l'économie est au plus haut, aidé par un commissariat au plan. Nous profitons du micro pour lancer nos combats. Le premier contre la domination d'une finance mondialisée, mais néanmoins américaine. Combien de fois ai-je pu dénoncer l'anomalie du dollar, monnaie nationale gérée par des autorités nationales à des fins nationales et qui sert d'étalon monétaire international ? Je rappelle, pour enfoncer le clou, que pour vendre ses productions, les USA ont fait dévaluer le dollar de 8% en 2025 et au moins autant en 2026. Dictature financière acceptée par les mondialistes heureux et les européistes béats qui affirment toujours que l'euro nous protège. Mais de quoi, bon sang, la monnaie européenne est vouée à rester une monnaie régionale, alors que, souvenons-nous, notre franc œuvrait à l'échelon mondial. Une monnaie comme l'euro, qui se dit forte dans un monde perclus d'inflation, est un boulet. Ce sera l'objet de nos prochaines interventions. L'or vient de repasser première composante des réserves de change. une révolution à venir et quelques questions aux conséquences énormes à nous poser. Pourquoi, malgré les achats d'or massifs des banques centrales, le métal or a des tendances baissières? Deux, nous devons aussi nous préoccuper de la place que prend la Chine dans le monde pour pouvoir vendre en France des lunettes à moins de 50 euros. Cela pose quand même un sacré problème. Ma grande aventure, traversée grâce à Radio Courtoisie, qui a permis de rencontrer le prix Nobel de sciences économiques Maurice Allais, de travailler avec lui en tête pendant des semaines afin de préparer une émission. Malheureusement, cette dernière n'a pu avoir lieu, le prix Nobel devenant difficile à maîtriser, mais j'ai tellement appris avec lui. Constatons que nos combats ne sont pas vains. Nous n'avons jamais autant entendu parler d'une remise en cause du dollar. Reste à trouver le bon système monétaire international. Ensuite, la TVA sociale, l'une des raisons qui fait qu'elle repart actuellement et qu'elle repartira. Ne nous inquiétons pas, nous servons toujours à quelque chose. Je vous remercie.
Eh bien, mon cher Henri, c'est pas une nécrologie, hein ?
Non.
Non, mais cela étant, c'est vrai que tu as rappelé pas mal de choses et que j'ai eu grand plaisir à être dans ce parcours.
Ah oui. Ah ben,
qui a été... mais je voudrais saluer le général Menu parce que, franchement, j'ai grand plaisir à le retrouver et je crois que nous allons parler défense, c'est-à-dire, c'est bien connu... Sans défense, la France ne serait pas la France, il faut le savoir.
Absolument. Plaisir partagé, bien sûr.
Oui, mais absolument vrai, et je suis certain que tu vas, mon général, nous rappeler des choses frappées au coin du bon sens.
Alors, loi de programmation militaire, déjà, parce que nous expliquer un peu d'où ça vient, pourquoi cette chute, etc., où nous en sommes actuellement. Ça me paraît quand même, dans l'époque que nous traversons, ça me paraît quand même à revenir sur le... Ça doit de revenir sur le devant de la scène.
Oui, absolument. C'est après une longue absence un peu difficile. Oui. Je suis quand même heureux de revenir vers vous
et nous,
pour un nouveau parcours. J'ai déjà eu l'occasion, il n'y a pas si longtemps, d'intervenir sur Radio Courtoisie, mais j'étais
au téléphone
chez moi parce que je ne me sentais pas encore vraiment... d'attaque pour être dans un studio, mais là, je pense que ça va, ça ira.
Bravo.
Alors, Henri m'a demandé de présenter, de parler du budget. Alors, j'ai dit, un budget tout seul dans son coin, c'est un peu limité. Donc, j'ai pensé qu'il fallait impérativement replacer ce budget dans la loi de programmation militaire actuelle, mais que cette loi de programmation mutuelle le programme militaire est elle-même à replacer dans toutes les lois de programmation qui ont précédé. Et je suis remonté à une citation du général de Gaulle. Je pense que personne autour de cette table ne va trouver quoi que ce soit à redire. C'est au sujet de la défense. Le général avait dit... La défense est la première raison d'être de l'État et elle concerne au premier chef la préservation de l'existence de la nation et l'intégrité physique des citoyens. Je pense qu'il a tout dit, ça a été en peu de mots, peu de phrases,
c'est une,
l'essentiel.
Mon cher Jean, c'est une citation qui trône à la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale.
Eh ben, bravo.
Voilà. Hein. C'est-à-dire que la défense est consubstantielle de l'État. Et que sans défense, l'État ne serait pas.
Absolument. Et l'État et les citoyens aussi.
Hein, absolument.
Ils font partie de l'État. Alors, je reviendrai un peu plus tard sur cette loi de programmation militaire 2024-2030. Mais auparavant, pourquoi les lois de programmation militaire? Alors, je ne sais pas si tout le monde est au courant que la première loi de programmation militaire qui a été établie en France... C'est par le général de Gaulle, en 1960, avec une idée bien particulière et bien précise, c'était dans l'optique de déployer la première force de dissuasion nucléaire française, indépendante. Et ça, c'était extrêmement important qu'il puisse planifier d'année en année la mise en œuvre et la mise en service de notre dissuasion nucléaire Et je me permets de rappeler que la première alerte opérationnelle de la composante était la composante pilotée, et qu'elle a été avec des Mirage 4, et que ces Mirage 4 étaient en opération sur la base aérienne de Mont-de-Marsan, avec la première bombe nucléaire, la N-22, et que c'était en 1964 que la France a accédé au rang de puissance nucléaire. Il n'avait qu'une seule composante, parce que les deux autres composantes qui ont suivi étaient des composantes, la première était avec des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, SNLE dans le jargon, et aussi les premiers missiles qu'on a mis en opération sur le plateau de l'Albion. Et le premier sous-marin s'est appelé le Redoutable. Je pense que la marine avait choisi un nom bien placé. Il fallait redouter ce sous-marin qui était tapis au fond de l'eau, et, en principe, impossible à détecter. Bon, c'est évident que cette force de dissuasion nucléaire a bien évolué et que au début, les premières missions avec les premiers missiles à main qui étaient à bord de ces sous-marins, il a fallu que ces sous-marins restent pendant très très longtemps à portée immédiate des objectifs qui étaient désignés, ce qui faisait que malheureusement à l'époque, on peut le dire aujourd'hui, ils étaient positionnés soit en Méditerranée. Donc, ils devaient passer par le détroit de Gibraltar, soit en mer du Nord, pour rester en permanence à portée des objectifs qui étaient désignés. Après, Dieu merci, heureusement, la technologie a évolué, et on est arrivé aussi bien sur le plateau d'Albion que dans les sous-marins nucléaires, à embarquer des missiles à très longue portée, qui permettait aux sous-marins nucléaires, bien sûr, de naviguer un peu partout dans les mers et les océans sans être à portée de détection, très silencieux. Et pour les missiles du plateau d'Albion, bien sûr, d'avoir une portée supérieure, même si, par définition, ils ne bougeaient pas. Alors, dans cette loi de programmation militaire de 2024-2030, j'ai retenu six faits qui me paraissent importants. Le premier, je viens de le rappeler, c'est la mise en service de notre dissuasion nucléaire indépendante avec la première alerte opérationnelle. Je n'y reviendrai pas. La deuxième, c'est le retrait des troupes américaines de France en 1966, à l'époque du général de Gaulle qui a prié les Américains de quitter le territoire. Et en même temps, il a décidé que nous partions du commandement militaire intégré de l'OTAN. On n'a pas quitté l'OTAN, ils ont quitté le commandement militaire intégré de l'OTAN. En 2009, le président Sarkozy a décidé de revenir dans le comité militaire de l'OTAN, mais nous n'avons jamais réintégré le comité des plans nucléaires. Jamais.
Affirmatif, c'est tout à fait exact.
Absolument,
se rester. J'ai voté contre, je te le signale.
Très bien, mais il fallait bien montrer que, d'accord, on revenait dans le commandement militaire intégré.
Pas au comité nucléaire.
Pas au comité militaire, parce que le nucléaire, c'était une chose complètement indépendante dans les mains du président de la République.
Et avec ta permission, c'est là-dessus qu'il va falloir maintenant avoir quelques explications sur le concept de
dissuasion avancée. Voilà. J'ai eu l'occasion d'écrire un article que j'ai déposé sur le site du Forum pour la France et j'espère sur le site du CNR, où j'expliquais tout ce qui s'était passé suite à cette déclaration du président de la République qui avait eu lieu sur la base de l'île Longue. Et à titre personnel, j'avais trouvé que tout ce qu'il avait dit me plaisait beaucoup. Bon, je suis très attaché à titre personnel à la dissuasion nucléaire, parce que c'est quand même grâce à la dissuasion nucléaire que nous avons pu vivre dans une situation de non-guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça, il faut le préciser.
C'est ce que disait le général Gallois qui était dans ce bureau en disant « L'atome rend sage, mais aujourd'hui, il y a un mais. Parce qu'il y a un risque de prolifération. »
Et il y a même un autre écrivain qui s'appelle Pascal Boniface, que je connais bien, et qui a écrit un livre « L'atome rend les gens raisonnables ». Parce que, et c'est exactement ce qui s'est passé pendant toute la guerre froide, et j'ai eu l'occasion à titre tout à fait personnel de le vérifier. Quand j'avais quitté l'armée de l'air et j'étais auprès du président de l'aérospatiale, en charge des programmes nucléaires et aéronautiques. Et à ce titre, j'ai été conduit à participer avec une équipe de l'aérospatiale et qui rencontrait les Russes, c'était après 91 bien sûr, pour leur offrir les possibilités de tirer leur missile Soyouz, leur lanceur Soyouz, à partir du site de Kourou. Il y a un avantage extraordinaire, c'est que ce site de Kourou, est situé sur l'équateur. Et donc la vitesse de rotation, la vitesse de lancement est supérieure à leur pauvre
c'est
site.
C'est comme une fronde.
Comme une fronde. Il y a l'effet de fronde qui permet de placer avec un même missile des charges beaucoup plus lourdes.
Mais ils l'ont fait, il y a eu des tirs.
On a rencontré les Russes pour en parler. C'est la première fois de ma vie que je rentrais, que je pénétrais dans des salles au sein même de l'ambassade de Russie en France. C'est un petit peu impressionné parce que j'ai passé toute ma carrière militaire à faire la guerre froide avec ceux qui étaient en face de moi dans la même salle. Et ils étaient en face de moi de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté de la limite entre l'Est et l'Ouest. Alors, au bout d'un moment, en discutant tous les jours avec comment on peut intégrer les Russes, pourquoi pas, c'était à mon avis une bonne idée, eh ben, il y avait des militaires qui étaient en face de moi, des militaires russes. Et entre militaires ou anciens militaires, je me suis dit, mais tiens, si je posais quelques questions sur cette partie importante qui a duré plus de 30 ans, où on a failli se taper sur la figure, mais on ne l'a jamais fait. Mais pourquoi, vous, les Russes, alors qu'on avait prévu que vous étiez capables de débouler avec vos divisions blindées vers l'ouest et arriver sur la mer? Mais pourquoi vous n'êtes pas venus?
En deux étapes du Tour de France.
Voilà. Ça, c'était il y avait une étape du Tour de France pour Strasbourg, et la deuxième était Brest. Et de manière extraordinaire, ils ont répondu, alors, avec une franchise moi, qui m'a sidéré, ils me disent, mais alors, vous n'avez pas pensé à la dissuasion nucléaire? Parce qu'on pensait bien que vous étiez capable de l'utiliser. Et je lui dis, bravo, ben oui, c'est vrai. Et ben, merci, la dissuasion nucléaire. Et moi-même, qui ai passé quand même 4 années en alerte en bout de piste à bord de mon Mirage 4 avec des missions bien précises, eh ben, je me suis dit que je n'avais pas perdu mon temps.
Mais Jean, tu viens de mettre un point et tu viens de dire quelque chose, moi, qui m'a beaucoup frappé. Quand je m'occupais notamment de l'ensemble des accords de défense, d'armement avec la DGA, il y a une internationale que l'on connaît guère. C'est l'internationale des militaires. Car ils ont les mêmes schémas, les militaires, c'est-à-dire et ils raisonnent de la même manière. Et ça, c'est une garantie, et tu viens de le démontrer.
Oui.
Tu viens de le démontrer. Oui. C'est-à-dire que moi, j'étais très étonné chaque fois qu'on partait dans le monde, etc., et qu'on était reçu par des militaires, c'était réglo, c'était responsable, c'était carré, tu vois. Et tu viens de le dire.
Oui, et non seulement c'est responsable et carré, mais en plus, il y a une espèce de certaine fraternité que entre guillemets. Fraternité humaine de ceux qui se sont regardés dans le blanc des yeux en disant, si tu bouges, je t'en mets une. C'est un peu comme le père qui dit à son fils, si tu passes ça, je t'en mets une. Ben, la gifle était un peu différente avec l'armement nucléaire. Ouais. Mais avoir cette confidence, en toute confiance, de dire oui, eh ben, on n'a pas fait parce qu'on était des gens raisonnables. Et tous les dirigeants soviétiques au sein du pacte de Varsovie, la direction du pacte de Varsovie, je pense qu'ils ont été des gens raisonnables comme l'ont été ceux d'en face à l'Occident. Et à ce titre, quand j'entends des gens dire ouais, la dissuasion nucléaire, ça ne sert à rien, oui, ce sont des gens qui aimeraient tellement qu'il n'y ait plus de dissuasion nucléaire. Et pourquoi? C'est pour mettre à la place une dissuasion conventionnelle avec laquelle on peut se taper dessus, comme on l'a fait pendant les guerres mondiales, avec des centaines de millions de morts. Ah ça, quelle joyeuseté que d'être tué par de l'armement conventionnel plutôt qu'une arme nucléaire qui n'a jamais servi.
Et je voudrais ajouter quelque chose, parce que ce que tu dis est très vrai. S'il n'y a pas justement l'équilibre nucléaire, on retourne à ce moment-là dans une guerre dite conventionnelle, mais c'est impossible. Et ces guerres conventionnelles, elles sont là où il y a le plus d'hommes et le plus de, je dirais, de chars, etc. Et donc c'est extrêmement dangereux. C'est là où le faible au fort que nous sommes rééquilibre les choses grâce au nucléaire. Et ça, c'est extrêmement... Alors, j'ajoute une chose, parce que connaissant un peu nos chers amis soviétiques, ou les Russes, tu les appelles comme tu veux, c'est que, en réalité, lorsque j'étais à Berlin, il y a longtemps qu'on savait que l'armée, à l'époque soviétique, mais c'était les Russes, ça ne marchait pas. C'était encore le paille-foin. Et la seule armée qui était opérationnelle du côté du Black de Varsovie, c'était la RDA, c'est-à-dire les Prussiens.
Ah oui.
Hein? Ça n'a pas changé.
Non, absolument. C'est tout à fait exact que ce que tu viens de dire. Alors, donc je passe à mon quatrième, et cinquième et sixième point, et plus des points d'actualité, à savoir que c'est la fin de la guerre froide en 1991, qui a été suivie de la dissolution du pacte de Varsovie. D'un côté, l'OTAN est restée intacte, n'a pas bougé, mais le pacte de Varsovie a été dissous. Et cette fin de la guerre froide a donné l'occasion à des hauts stratèges politico-militaires, parce que j'intègre aussi les deux parties, qui ont dit, mais s'il n'y a plus de guerre maintenant, parce que comme l'Union soviétique s'est écroulée, on va pouvoir vivre en paix.
Voilà.
On n'aura plus jamais de guerre en Europe. Bien. L'actualité nous montre qu'ils étaient vraiment des brillants visionnaires. Et que, comme on ne devait plus avoir la guerre en Europe, c'était le moment ou jamais de bénéficier des bénéfices de la paix.
Des dividendes de la paix.
Des dividendes de la paix. Et en conséquence, qui dit dividendes de la paix, ça veut dire on va taper dans les budgets de la défense, on va diminuer tout ça, on va diminuer les effectifs, on va couper les matériels, on va supprimer des régiments.
Des casernes.
Oui, et des régiments, parce que ce sont les forces vives, et on vend les casernes. Hein, et on a fermé des bases aériennes. Et qu'est-ce que j'ai vu, moi, sur une des bases sur lesquelles j'avais été affecté, sur plusieurs bases, beaucoup ont été fermées, et je retiens une, qui est la base de Toul, sur laquelle était stationnée la 11e escadre de chasse que je commandais. Et qu'est-ce que j'ai vu? Des panneaux solaires sur toute la base. Ah. C'est-à-dire que la base aérienne de Strasbourg, a été transformée en centre de production d'électricité à base solaire. Voilà, non, ça m'a fait quelque chose. Ah. Eh bien, donc, c'est donc ces dividendes de la paix. On a vu les conséquences, et je vais en parler tout de suite. Et l'autre événement qui a suivi la guerre en Ukraine, qui n'est pas terminé, parce que ça fait quand même 4 ans qu'elle a commencé, donc on peut se poser quelques questions sur les valeurs de l'armée russe, hein, qui en 4 ans n'a même pas réussi à battre les Ukrainiens, qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel. Bon, ils ont été bien aidés, c'est évident.
Oui.
Ils ont eu de l'argent, on leur a fourni des matériels, des armements.
Mais quand même.
Hein, ils se sont battus comme des chiens. Et je ne sais pas si aujourd'hui, les Français ou les habitants de l'Occident seraient capables de se défendre bec et ongles et d'accepter des sacrifices, oui, et des pertes humaines.
C'est exact ce que tu dis. Il faut savoir quand même qu'il y a 6 millions d'Ukrainiens qui ont foutu le camp du pays, qui ont quitté le pays, oui, pour ne pas combattre. Hein. Et donc, et que, bien sûr, on a donné énormément de matériel. Ça, je suis d'accord avec toi. On a donné énormément de matériel et des renseignements. Hein. Et sur les origines de la guerre, parce que tu as parlé de la fin du pacte de Varsovie, c'est exact, et l'OTAN est là, et on avait promis aux Russes que, bien évidemment, jamais l'OTAN n'irait tirer les moustaches de nounours.
Absolument.
Et ça, malheureusement, ça a été, je dirais, continuel, à telle enseigne, je dis toujours, quand la Roumanie est d'abord entrée dans l'OTAN avant de rentrer dans l'Union européenne. C'est tout dire. Et quand tu vas au ministère des Affaires étrangères roumain, tu as le drapeau roumain, tu as l'emblème de l'OTAN et tu as subsidiairement l'Union européenne. Voilà l'explication.
C'est tout à fait exact et je remonterai même un peu plus dans l'histoire. Pourquoi il y a eu constitution du pacte de Varsovie? L'OTAN s'est constituée en 1949 parce qu'en face, on sentait qu'il y avait une certaine menace. Et c'est uniquement quand l'Allemagne dite de l'Ouest a rejoint et intégré l'OTAN que les Russes ont décidé de constituer en 1955 le pacte de Varsovie. C'est-à-dire que le pacte de Varsovie a suivi de 6 ans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc c'était quand même une réaction. Alors déjà, on les avait provoqués, comme tu viens de le remarquer. On avait promis, enfin, c'est ce qu'on a dit, mais de manière orale, qu'après la fin de la guerre froide, les frontières de l'OTAN n'iraient jamais plus vers l'Est, vers la Russie. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a intégré au sein de l'OTAN des anciens pays du pacte de Varsovie. Et ça a été considéré comme une provocation.
Totalement. Et je voudrais ajouter quelque chose. Il y a un grand ambassadeur américain qui, en 1950, était anti-stalinien, hein, quand dans les années 50, quand effectivement on pensait que les Popov allaient arriver à 2 étapes du Tour de France, il s'appelait George Kennan. Et George Kennan, ensuite, en 1998, a commis un article dans Foreign Affairs en disant si les États-Unis, si les Occidentaux continuent à aller titiller l'ours, eh bien, on va avoir une catastrophe. C'est-à-dire qu'il était, il avait inventé le containment policy, c'est-à-dire contenir les Soviétiques, et en 98, il a dit, attention, ça devient maintenant provocant, et c'est la raison pour laquelle il y a eu une faute géostratégique, un peu sur le système de ce qui s'est passé à Cuba, où quand les Popov est allé mettre des fusées sous le nez de Washington, ça n'a pas marché. Et donc, il a fallu faire demi-tour. Et du côté occidental, il y a eu une mauvaise politique à cette époque-là qui a provoqué la radicalisation soviétique.
Alors, justement, ça me remet en mémoire cette affaire de Cuba. Quand les Russes ont installé ces missiles sous le nez des Américains, qui n'avaient pas beaucoup apprécié, je comprends
non,
très bien.
Pas du tout,
et
oui.
C'était à l'époque de Kennedy.
De Kennedy.
Et qu'a fait Kennedy? Il avait à sa disposition ces 3 composantes. La composante aérienne, la composante sol-sol et la composante sous-marine. Il a utilisé la seule composante qui était visible à l'œil nu. C'est-à-dire qu'il a fait décoller ses bombardiers nucléaires en direction de l'Union soviétique en disant à Khrouchtchev, si tu ne retires pas ces missiles,
ils vont au bout.
Je te balance des bombes nucléaires sur ton territoire. Et Khrouchtchev a fait marche arrière.
Tout à fait.
Et on dit que oui, mais en compensation, les Américains ont accepté les missiles de Turquie. Mais ça a été un mauvais contrat pour les Russes, parce que qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là? Il y avait déjà les sous-marins nucléaires américains qui patrouillaient joyeusement en mer et qui étaient tout à fait capables de se mettre à portée du territoire de l'Union soviétique, hein, et de faire peser la même une menace supérieure avec les charges nucléaires qui étaient embarquées à bord des sous-marins. Bon, mais ça, ça s'appelle les discussions entre puissances qui possèdent de l'armement nucléaire, parce que deux puissances, depuis 1945, que ces puissances qui disposent de l'armement nucléaire ne se sont jamais affrontées directement. Et c'est ça qui est important.
Tout à fait.
Et c'était quand
Absolument.
Même un gage de sécurité pour avoir la paix. Et qu'ont fait ces grandes puissances, les Américains, les Chinois et les Russes de leur côté, ils se sont affrontés sur des théâtres d'opérations secondaires
Sans
où
voilà.
il n'y avait que des petits armements conventionnels.
Tout à fait.
Ils ont fait des guerres de proxy conventionnelles.
Ils ont fait des guerres de proxy déjà. On avait déjà oui. inventé les proxys avant les barbus d'Iran.
Oui.
C'est Alors,
tu devrais citer à cet égard ce qui s'est passé entre le Pakistan et l'Inde.
Oui, alors effectivement, entre le Pakistan et l'Inde, naturellement, ils n'entretenaient pas des relations très amicales, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. D'abord pour des raisons religieuses, mais aussi des raisons de proximité immédiate de territoire. Bon. J'avais dit à l'époque, le jour où l'Inde et le Pakistan pourront accéder à l'arme nucléaire, j'ai le sentiment, l'impression, que ça va les rendre un petit peu plus raisonnables et que s'ils ont envie de s'agacer, ils vont le faire dans les limites acceptables.
Tout à fait.
Ce qui me permet de dire à ce sujet-là que quand on parle de dissuasion, il ne s'agit pas uniquement de la dissuasion nucléaire, mais de la dissuasion avec un grand D, à savoir qu'il faut qu'on ait à la fois des forces nucléaires et en complément des forces conventionnelles, pour pouvoir être en mesure de tester en permanence, quand on est attaqué par un assaillant, de mesurer jusqu'où il y a l'intention d'aller et de lui faire passer un message en disant, à partir de maintenant, compte tenu des positions de nos forces conventionnelles, si tu vas plus loin, j'utilise mon armement nucléaire.
Alors, ayant participé, comme tu le sais, à la négociation de la vente des Mirage 2000 à l'Inde, où je suis rendu avec Marthe, notamment, qui était le DGA, et où j'ai eu une négociation, parce que j'étais parti avec des instructions en disant, il faut que tu vendes tes Mirage, mais si jamais ça tourne au grabuge, il va falloir que la France tire les flûtes. Donc c'était la quadrature du cercle. Mais peu importe. Mais ce que je me souviens encore du chef d'état-major indien qui nous parlait des Pakistanais, il les traitait de chiens fous, mad dogs. Donc, comme tu viens de le dire, il s'aimait véritablement d'un amour vache. Hein?
Absolument.
C'est le cas de le dire pour l'Inde.
Voilà, donc, dans le dernier point dont je parlais, et j'avais parlé de la guerre en Ukraine, qui a fait une brillante démonstration de ce que nous n'étions plus capables de faire, nous, en France en particulier, à savoir que bon, la guerre en Europe était revenue,
ouais.
Que ce n'était pas une guerre qui n'était pas marginale, mais c'était une guerre de haute intensité, avec des consommations énormes de matériel, des consommations énormes de munitions, des consommations énormes humaines, et qu'on avait bâti un modèle d'armée qui était devenu un modèle d'armée d'OPEX, d'opérations extérieures, qui était dimensionné pour ces opérations extérieures, avec des capacités en matière de mise en condition opérationnelle, de maintien en condition opérationnelle, de capacités en munitions, qui n'étaient plus du tout adaptées à ce type de guerre moderne. De haute intensité. Et j'ai un ami journaliste que j'aime beaucoup qui a employé un terme très, très, très drôle en parlant du modèle d'armée que nous avons actuellement en France. Il a dit c'est un modèle d'armée de type bonsaï.
Ah.
Alors, au début, la première fois, quand il m'a dit bonsaï, j'ai dit mais pourquoi ? Il me dit mais un bonsaï, c'est un truc qui est tout petit, qui a tout ce qu'il faut. Mais si on se cagasse un peu trop souvent, il ne peut pas durer longtemps. Et après, quand on s'est rendu compte effectivement que dans le type de guerre qui existe actuellement en Ukraine, nos réserves de munitions sont limitées à 5 jours. On ne pourrait pas durer plus de 5 jours avec le taux de consommation actuel dans ces guerres modernes. Alors ça, c'est quelque chose qui est une sacrée leçon. D'autant plus que derrière l'Ukraine, qui n'est toujours pas terminée, je ne sais même pas quand ça va se terminer, il y a l'Iran qui est apparu. Et qu'ont fait les Américains et les Israéliens? Ils ont bombardé joyeusement. Et on entend à droite et à gauche, ah ben oui, mais comment? Et peut-être que les Américains pourraient manquer de munitions, parce qu'il y a beaucoup de munitions qui sont parties vers l'Ukraine. Et donc, il y aura un problème de capacité des États-Unis de continuer à bombarder massivement. Donc voilà, ça c'est une réalité. Donc on est face à cette réalité aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle la dernière loi de programmation, je viens au centre du sujet, la dernière loi de programmation 2025-2030, 2024-2030, doit prendre en considération cet aspect extrêmement important.
Tout à fait, bravo.
Alors, je ne voudrais pas revenir sur toutes les programmations militaires qui ont eu lieu avant. Je voulais rappeler, pour ceux qui l'ignoraient, que la première programmation militaire est due au général de Gaulle, qui lui était un visionnaire. Il avait dit, pour bâtir, développer et mettre en service opérationnel une nouveauté, il faut s'inscrire dans la continuité et ne pas faire un budget tous les ans. Il faut faire une prévision budgétaire sur plusieurs années. Donc il a décidé de faire cette première programmation militaire sur 5 ans, et dans cette programmation militaire, il n'y avait que ce qu'on appelle le titre 5, c'est-à-dire la partie réservée pour les développements des matériels, investissements. Et le titre 3 étant pour le fonctionnement.
Oui.
Il a dit, je vais mettre l'accent sur l'acquisition de ma force de dissuasion nucléaire, parce que cette première loi de programmation militaire était dédiée pratiquement exclusivement aux forces nucléaires. Ça, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis derrière, eh bien sûr, les présidents se sont succédés. Il y en a eu un certain nombre. On a eu plusieurs lois de programmation militaire. Aucun président n'a eu le courage de supprimer cette tradition de loi de programmation militaire. Et de manière assez étonnante, le président qui était en place à la tête du pays au moment de la fin de la guerre froide, c'était le président Mitterrand, eh ben, il a eu la sagesse de comprendre et d'estimer qu'il fallait prendre son temps, donner du temps au temps. On retrouvait le comportement de cet homme qui n'était pas un homme qui était dans la précipitation, mais qui savait dire « je prends le temps de réfléchir ». Et lui, dans sa première loi de programmation militaire qui a eu lieu entre 1987 et 1991, il a consacré 163 milliards d'euros sur 5 ans. Il a copié le général. Il a voulu faire pareil. Donc il n'a pas dit « bouf !» Enfin, surtout pour la première de 87, on n'était pas encore arrivé à la fin de la guerre froide. Et c'est surtout au niveau de la seconde, quand on a lancé la deuxième loi de programmation militaire qui a duré de 1993 à 1998, donc toujours sur la responsabilité du président Mitterrand, eh ben, il a encore mis 182 milliards d'euros. Donc il a augmenté un petit peu, mais sans baisser. Donc il s'est dit, vous voyez, c'est peut-être la fin de la guerre froide. Il ne faut pas oublier que c'est un homme qui avait fait la Seconde Guerre mondiale et qui savait de quoi il s'agissait. Mmh. Il avait la connaissance de la guerre et de la paix. Alors, il a quand même commencé à bouger, à diminuer les effectifs, à diminuer... il a retiré les troupes françaises d'Allemagne, hein, parce qu'on avait déployé des troupes françaises d'Allemagne, et ce déploiement des troupes terrestres françaises avait été précédé du retrait des deux bases aériennes que l'armée de l'air occupait, celle de l'Arre et de celle de l'autre base dont j'ai oublié le nom. Voilà. Ensuite, eh ben, c'est là que la catastrophe est arrivée, parce que qui est arrivé après le président Mitterrand? Ça a été notre Jacques Chirac, qui a été responsable de deux lois de programmation militaire. Et là, je dirais, catastrophe. C'est lui qui a été le premier président à sabrer dans les budgets de lois de programmation militaire, puisque nous sommes passés déjà entre la loi de Mitterrand de 182 milliards d'euros, sa première loi de Chirac, 168 milliards, à la baisse. Et naturellement, il a commencé à organiser une armée professionnelle. Il a suspendu le service militaire. C'était en 1996. Je dis bien suspendu, mais pas supprimé.
Non.
Parce que ça veut dire qu'on peut...
On peut le refaire.
On peut le reprendre. C'est ce qui est en train de se préparer et se faire actuellement.
On va y revenir. On ne peut pas y revenir.
Et puis, la réduction, bien sûr, des crédits d'équipement. Hein, mais, et puis, il a encore... Qu'est-ce qu'il a fait? Je regarde mon petit papier... l'arrêt, bien sûr, il a décidé l'arrêt de la composante sol-sol du plateau d'Albion.
Ah oui.
Et à ce sujet-là, à cette époque-là, je l'avais quitté l'armée de l'air, je travaillais pour l'aérospatiale, et ça je peux le dire, je m'occupais bien sûr du développement, en particulier du M51, le nouveau missile qui devait équiper nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et j'ai reçu une demande du président Mitterrand me demandant d'étudier la faisabilité de mettre au plateau d'Albion, non plus les S3 qui étaient actuellement en service, mais ils trouvaient que le rayon d'action était un peu limité, mais d'étudier la possibilité de mettre dans les silos de ces missiles S3 le M51. Alors, quand on voyait la taille du M51 par rapport à S3, la taille dépendait bien sûr de la capacité du rayon d'action. Et lui avait calculé, parce qu'il savait, je pense, regarder une carte, mettre la position de Paris et faire des cercles, plutôt, je dirais, 360 degrés pour dire qu'on n'avait pas d'ennemi particulier, et de dire, ouh, mais c'est quand même très intéressant parce que je voudrais garder le plateau d'Albion. Il voulait garder le plateau d'Albion et justifier l'existence du plateau d'Albion.
Je vous demande 2 secondes.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Ça y est.
Oui, c'est
bon. Ah, vous. Vas-y.
Voilà. Bon, général, pardon. Donc, j'ai découvert aussi un président de la République, bon, que j'avais connu un petit peu quand j'étais en activité auprès du Premier ministre. Je l'ai vu se comporter pendant la guerre du Golfe. J'ai trouvé que j'avais en face de moi un homme qu'on ne connaissait pas et qui s'est comporté comme un homme d'État. J'ai beaucoup de choses à lui reprocher, bien sûr. Hein, mais là, je l'ai vu dans une activité qui m'est un peu chère et particulière. Mais j'ai été surpris de voir
Tu te souviens de son discours au Bundestag où il avait dit les SS-20 sont du côté soviétique,
absolument,
etc.
Voilà.
Mais il y avait un autre problème avec le plateau d'Albion, et tu viens de le dire, parce que le M51, s'il avait été installé sur le plateau d'Albion, il tirait plus loin, mais il y avait un coup assez phénoménal. Et surtout, il y a eu un problème dans les relations avec les Allemands, qui pensaient que le plateau de l'Albion, ils allaient se prendre les missiles sur la tête.
C'est une possibilité, hein, mais c'était du reste un argument qui a été utilisé par ceux qui étaient opposés à au plateau de l'Albion, en disant « mais ça ne bouge pas, ça n'est pas protégé, donc ça va être détruit d'un coup ». Mais ce n'est pas vrai. Il y avait quand même 18 missiles.
Oui, 18 missiles.
Non, et comment peut-on détruire 18 missiles d'un coup? Avec quoi? Alors si on part sur des frappes conventionnelles, on voit les résultats actuellement en Iran. J'en ai parlé du reste déjà, comment les Iraniens se sont préparés, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et ben, comment pouvait-on préparer d'un coup une attaque sur le plateau d'Albion et être sûr à 100% de détruire les 18 missiles? D'autant plus que le président Mitterrand, dans sa tête, il savait très bien qu'il disposait de la force sous-marine, qui était à l'époque avec le M51 naviguant un peu partout dans l'immensité des océans et des mers, et aussi la composante aéroportée qu'on pouvait déployer aisément. Donc, c'était un homme qui était attaché à la terre. C'était un homme de la terre, au sens noble du terme, je veux dire. Et que pour lui, il était toujours embêté, parce qu'il disait, moi, le sous-marin nucléaire, je ne sais pas où il est. et ça l'ennuyait beaucoup qu'en tant que président, on ne soit pas capable de lui dire, parce que personne ne le savait. Il n'y avait que le commandant du bateau, on l'espère, qui savait où il était, et le second pour l'aider. Mais c'était quelque chose qui le gênait. Alors qu'il disait, au moins, mon plateau d'Albion, je sais où il est. Et si on l'attaque, c'est une attaque personnelle, et c'est donc une justification d'une riposte nucléaire avec les sous-marins nucléaires.
Mon général. Vous finissez pour qu'on laisse un peu la parole.
Non, je voudrais. Bon. Non, on va faire un dialogue parce que c'est très intéressant. Vas-y. Je voudrais revenir sur ce que tu as dit sur Chirac, parce que quand tu dis qu'il a baissé, c'est vrai, il a baissé dans la loi de programmation ce qui était attribué au total. Mais c'est qu'il y avait dans son esprit qu'on allait vers une sorte d'armée de métier, ce qui coûtait très cher, etc. C'était l'accueil d'une classe d'âge dans les casernes. Et ça, comme ça allait s'arrêter, il y avait des économies qui ont été peut-être faites, et surtout, ce qui a été une faute, c'était la vente des casernes. Ça a été dramatique.
Et pas que. Il n'a pas vendu que les casernes, il a vendu aussi des bases aériennes.
Oui.
Je parlais tout à l'heure.
Et notamment les diverses bases qui étaient sur tout le territoire, très éloignées les unes des autres, mais...
On a supprimé des bases qui ont été chères. C'est la base de Strasbourg que j'ai commandée, la base de Colmar où j'ai fait mes premières armes dans la chasse, la base de Toul où j'avais aussi commandé une escadre. Quand je vois ces bases qui ont disparu, ce qui coûtait cher, d'accord, mais dans les chiffres que j'ai indiqués...
L'accueil d'une classe d'âge était assez onéreuse.
Oui, mais dans les deux programmations militaires dont il a été responsable, la dernière de 2003-2008, où il a encore diminué de 28 milliards par rapport à la précédente, donc il a quand même diminué sur deux lois de programmation militaire plus de 40 milliards.
Ah oui.
Bon, c'est pas uniquement les petits soldats qui ont coûté aussi cher.
Non, c'est les dividendes de la paix, c'est cette idéologie-là.
Oui, mais les dividendes de la paix, ça a été aussi de supprimer des ressources au niveau du titre 5, dans des équipements. Donc on a quand même un certain nombre d'équipements qui ont disparu. Et là, j'ai même sur les yeux des effectifs de l'armée de terre. En 95, ils étaient 240 000, dont 100 000 appelés. Et puis, à l'objectif 2030, il y avait prévu 130 000. Au niveau des régiments, il y avait 129 régiments en 95, plus que 80 à l'échéance de 2030. Vous voyez, donc, les chars lourds, 930 en 95, 200 en 2030. Les hélicoptères, 340 en 95, 148 en 2030. C'est pas une hausse, tout
non,
ça.
Non,
hein,
non, oui,
ce sont
oui,
pas
non,
du tout les petits soldats. Tu... Hein. Et je parle pas non plus des canons. Il y avait plus de 300 canons en 95 et plus que 120 en 2030. La marine a moins souffert. Les frégates sont restées identiques, 15, pareil. Le nombre de SNA, 6, pareil. Porte-avions, on en avait 2, il s'est passé à 1. En SNLE, on en avait 6, passé à 4. Et puis, au niveau de la patrouille maritime, eh ben, il y en avait 33. Et c'était 18 à l'horizon 2030. Et l'armée de l'air, eh ben, il y avait plus de 400 avions de combat. 187 à l'échéance de 2030. Au niveau des avions de transport tactique, 86 en 95 et 44 en 2030. Et le reste, eh ben, au niveau des ravitailleurs, une bonne surprise, on en avait 11, qui étaient des avions américains, des C-130, qui ont été remplacés par 15 Airbus 330 MRTT, dont je me suis occupé. J'étais comme ravi de voir et la 400M et le 330 entrer en service dans l'armée de l'air, entre autres.
Je ne sais pas pour me faire le défenseur de ce qui a été fait, parce qu'effectivement, je l'ai critiqué en son temps. Mais il faut reconnaître que dans les avions, dans les chars, etc., c'était normalement des nouveaux équipements qui étaient beaucoup plus performants. Parce que les avions dont tu parles, qui ont diminué de 450, etc., Ils ont été remplacés, je ne sais plus, à l'époque, je crois par les Mirage 2000, ils ont été remplacés...
C'était à l'échéance de 2030, c'était essentiellement des Rafales, 187, voilà, Rafales, oui. Plus Mirage 2000. Oui. Bon, on dit, on a diminué le nombre, je ne vais pas défendre mon ancienne chapelle, hein, mais on a diminué le nombre d'avions de combat parce que ces avions sont polyvalents.
Oui.
Mais quand on est avec un nombre limité d'avions et qu'on est sur plusieurs théâtres d'opération, la polyvalence, c'est bien sur un théâtre, mais... Le don d'ubiquité n'existe pas pour ces avions d'intervenir à 600
km. Non, mais on a baissé la garde, et puis c'est tout.
Non, il faut dire, oui, effectivement, on a eu les dividendes de la paix qu'on a poussé jusqu'à une limite inacceptable.
Voilà,
parce qu'on considérait que la guerre ne pouvait plus avoir lieu.
C'est extrêmement important ce que dit le général Menu. On a baissé la garde à un moment où il ne fallait pas la baisser, et on en paye maintenant les dividendes.
Et ce n'est pas faute, nous trois, d'en avoir parlé
tout à fait.
Au sein de Radio Courtoisie et sur les papiers qu'ont rédigés les uns et les autres sur les sites du CNR et
Absolument.
De Forum pour la France, c'était un des sujets qui nous préoccupait. C'était
fait.
La baisse permanente des budgets de la défense et on se disait, mais attention, une paix éternelle n'existe pas dans ce monde.
Bien évidemment. Alors, je voudrais que tu... Parce qu'il y a quelque chose qui est intervenu dont tu n'as pas parlé, c'est Petersberg. La déclaration de Petersberg où sous la houlette et le contrôle des Américains, les Européens et nous en particulier, il nous était réservé de faire des opérations de police. C'est ce que je dis tout à l'heure, des OPEX, n'est-ce pas ?
Voilà. Opérations extérieures.
Voilà, des opérations extérieures. Et donc, c'est ça aussi qui montrait qu'on ne croyait plus à une guerre de haute intensité vis-à-vis des soviétiques, ou ce qu'il en restait, mais qu'on se réservait encore la possibilité d'aller mettre, je dirais, d'intervenir soit en Afrique, soit ailleurs, comme si on était les gendarmes du monde, quoi, ou les pacificateurs de conflits locaux.
Oui, c'est tout à fait exact. On a décidé que, comme il n'y aurait plus de guerre en Europe, mais que ça bougeait un peu partout, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient, qu'on avait dimensionné notre modèle d'armée pour ce genre d'opération extérieure. Donc, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais c'était petite main par rapport à ce que l'on voit aujourd'hui.
Oui.
Bon, mais c'était le format bonsaï.
Juste, mon général, juste deux, parce qu'il faut que nos éditeurs, on leur réponde.
Oui.
Passez le message de félicitations. Voilà. Celui-là, non.
Oui, ça c'est plus... Voilà, là on est en direct, hein, et les auditeurs interviennent, notamment une personne féminine. Bonsoir messieurs, j'écoute avec beaucoup d'intérêt et d'émotion les propos du général Menu. J'apprécie son humilité,
eh bien,
sa sagesse, ayant dans ma famille des militaires de carrière. Merci pour cette émission. Et puis un autre, mais là c'est plus circonstanciel, là, et on est dans, dans,
on est dans l'actualité vraiment très récente. Que pensez-vous de la promenade, entre guillemets, du Charles de Gaulle? C'est-à-dire qu'il vient de passer le canal de Suez, je crois. Là, on est en dehors de la conversation actuelle.
Non, mais ça ne fait rien.
Je peux répondre à la deuxième question. Oui. Bon, je remercie cette personne. Ça fait toujours plaisir d'avoir des félicitations. Et puis, je sens que cette personne a parlé avec son cœur et je comprends très bien ce qu'elle peut ressentir en étant faisant partie de la famille militaire, dont je fais partie moi aussi depuis 3 générations. Je suis la 3e génération et 3 générations qui ont fait la guerre en plus.
Bravo.
C'est circonstances qu'on fait. C'était comme ça. Bon, mais... la question c'était...
Charles de Gaulle,
la promenade.
Je ne veux pas venir sur un terrain sur lequel je ne suis jamais rentré, c'est-à-dire la lutte interarmée. Parce que je considère que la lutte, la véritable, qui a lieu sur le terrain, est toujours une lutte interarmée, mais avec les siens de son côté et les autres en face. Parce que de quoi on a besoin? On a besoin des compétences de gens qui travaillent dans des milieux... Les marins qui sont dans le milieu maritime et sous-maritime, hein, parce qu'il y a aussi les sous-marins, des terriens qui, eux, combattent sur la terre, et puis des aviateurs qui combattent dans l'air. Donc ces 3 composantes sont indispensables.
Et n'oublie pas maintenant l'espace.
Ah oui, mais armée de l'air et de l'espace,
et
absolument.
De l'espace,
voilà,
oui.
J'y reviendrai tout à l'heure. Eh bien, je ne ferai jamais... De critiques négatives, parce que d'abord, le Charles de Gaulle, je sais très bien où il était. Il était dans le Grand Nord. Eh bien, là, à cette époque-là, on ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer en Iran. Alors, si on doit positionner le Charles de Gaulle un peu avant les opérations qui vont se déclencher, il faut avoir une vision extraordinaire.
Il faut être dans la tête de Trump.
Et encore, moi, je ne voudrais pas être dans la tête de Trump parce que je suis persuadé qu'il ne sait pas ce qu'il pense.
Ah non seulement il ne sait pas ce qu'il pense, et il ne sait pas ce qu'il va dire le lendemain pour dire le surlendemain le contraire.
Bon, alors, le Charles de Gaulle, il était donc ailleurs, pour une mission particulière. Et il se trouve que... un bâtiment de surface, qu'il soit un Charles de Gaulle ou une frégate, ou même un sous-marin SNA, qui navigue très rapidement sous l'eau, une force extraordinaire, et ben, pour rejoindre un théâtre d'opération qui était pratiquement à l'est de la Méditerranée, ou éventuellement se mettre aux côtés des Américains et des Israéliens du côté de l'Iran, il faut du temps. Un porte-avions, ça navigue 22-25 nœuds. Il faut du temps pour rejoindre.
Jean, tu viens de dire quelque chose d'interarmé. En réalité, toutes les opérations modernes de la guerre, c'est quelque chose complexe et toute cohérente. Il faut qu'elles travaillent ensemble. Ce sont des systèmes d'armes.
Absolument.
Ce sont des systèmes d'armes. Et c'est en cela que, effectivement, rien ne peut se concevoir. Soit pour une aviation qui bombarde, on l'a vu, ça ne sert pas, malheureusement à pas grand-chose. Et bien évidemment, s'il y a des gens au sol, il faut que ça soit avec d'autres combattants. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et il faut la coordination est inévitable. Et c'est en cela que tu as raison de souligner que l'interarmée... C'est l'armée.
C'est indispensable, c'est l'armée française.
Tout à fait.
Il n'y a pas une armée de l'air, une armée de terre et une marine. C'est une armée française qui est faite pour agir sur le terrain sous la direction, sous le commandement d'un homme unique. Chez nous, c'est le chef d'état-major des armées qui est chargé de la conduite des opérations sous la responsabilité du chef des armées, hein, qui est le président de la République. Et bien, le président de la République, en principe, sauf aux États-Unis, où le président intervient directement là où il ne faudrait pas, mais chez nous, ça fonctionne très bien. Et donc, le chef d'état-major des armées utilise ses moyens interarmées qui sont à sa disposition. Et je pourrais parler à titre d'expérience personnelle. J'ai commandé une opération interarmée au Tchad, qui s'appelait l'opération Épervier. Et quand je dis interarmée, ça veut que j'avais... tous les représentants de nos armées. J'avais la marine. Alors on dit, ah, la marine, mais au Tchad, que faisait la marine? Oui, j'avais des avions de patrouille maritime Mais pourquoi n'est pas
les patrouilles
maritimes? Mais ils faisaient du renseignement, voilà. Mais c'était des moyens de la marine. J'avais, bien sûr, des avions de l'armée de l'air, mais l'armée de l'air, des chasseurs, des F1, des Jaguars, des Mirage F1CR pour la reconnaissance. J'avais aussi des terriens, j'ai eu sous ma responsabilité des régiments de l'armée de terre, et pas des moindres, le 2e REP, c'est pas n'importe quoi, le 8e Air Puma, le 8e régiment de parachutistes de l'infanterie de marine, et puis j'ai eu aussi le 17e régiment de génie parachutiste, dont un des membres vient d'être tué récemment, et j'ai même téléphoné au colonel pour lui dire toute ma sympathie en souvenir des excellents rapports que j'ai eus avec ce régiment de génie parachutiste qui déminait la palmeraie de Faillard Largeau. Et puis j'avais les essences, il faut même mettre du carburant dans les...
Bien sûr.
J'avais le service de santé, j'avais de la gendarmerie. Donc ça, c'est, j'appelle, avoir sous le commandement de l'homme que j'étais, on m'avait dit, vous serez le commandant en chef de l'opération Épervier. Bon, j'ai eu tous ces moyens sans aucune rivalité interarmée. Aucune, je dis bien, aucune interarmée.
Tu es bien.
Bon, alors, le porte-avions Charles de Gaulle, il lui faut du temps pour descendre.
Oui, il est allé vite.
Mais là, il fait même s'il met plein pot, il faut du temps pour descendre.
Tu viens de mentionner, pardon Henri, tu viens de mentionner le service des armées, la médecine militaire.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose que nous avons heureusement gardé.
Mais absolument.
Chez les British, ils ont supprimé ça, voulant faire appel à des médecins civils. Les gars, lorsque ça tourne, ils disent on n'y va pas.
D'abord,
ils sont pas faits pour ça.
Quelque chose qui est très important, c'est qu'une blessure de guerre par arme de guerre, il faut voir un peu les dégâts. Moi, j'ai eu l'occasion de voir parce que mes médecins, les chirurgiens de l'antenne chirurgicale que j'avais à N'Djamena, devaient soigner tous les soldats tchadiens qui combattaient à l'époque dans le nord pour essayer de récupérer la bande d'Aouzou contre les Libyens. Et donc, ils étaient récupérés, il faut voir dans quelles conditions, les pauvres, soit par camion sur les pistes, soit quand on pouvait leur envoyer à Transal. Eh bien, ces médecins et chirurgiens ont fait un travail remarquable aussi et plus particulièrement pour l'opération Épervier, au bénéfice des soldats tchadiens qui combattaient. Et ben, s'il n'y avait pas cet esprit interarmé, hein, qu'est-ce qu'on ferait? Et toute opération militaire que l'on connaît, ont lieu sous le parapluie interarmé. Et c'est ça qui est très important. Et ce n'est pas de dire, ah, c'est celle-là qui a fait ça, c'est beaucoup mieux que l'autre. Non, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est que c'est l'armée française qui a réussi à remplir la mission qui lui a été donnée.
Ce que je pense, c'est que notre auditrice, parce qu'il semblerait que ce soit une auditrice, elle voulait nous entraîner certainement autre part, c'est-à-dire cette promenade du Charles de Gaulle, c'était uniquement de savoir ce qu'on pensait de la guerre entre l'Amérique et l'Iran, c'était surtout ça.
Ah, ça c'est ça notre problème.
Oui,
là, c'est pas...
je suis sûr que c'est ça qu'elle voulait parler.
Ce Charles de Gaulle, je peux aussi en parler, parce que à l'occasion de la première guerre du Golfe, j'étais donc à Matignon, et le président Mitterrand, qui toujours prend son temps pour décider, avait envoyé effectivement le Charles de Gaulle, et on avait trouvé un peu bizarre que de voir notre porte-avions, l'unique porte-avions, avec sur le pont d'envol des camions, et qui naviguait, oui, il était parti avec des camions, parce qu'il fallait trouver un moyen pratique d'apporter à l'armée de terre des moyens terrestres pour circuler sur le théâtre d'opération. Donc, on n'a pas trouvé mieux que d'avoir un porte-avions qui pouvait emporter beaucoup de camions. Mais ça, quelque part, ça a arrangé un peu notre cher président Mitterrand, parce que lui qui n'était jamais pressé, on disait à l'époque, on glosait un peu en disant, oui, le porte-avions Clemenceau navigué à vitesse diplomatique. Donc ça nous faisait rigoler, mais on savait très bien que derrière, le Charles de Gaulle, il y avait un fond de cale, il y avait les avions aussi. Mais à vue, on ne voyait que les camions. Donc on disait, bon, c'est pas un porte-avions.
C'était le Charles de Gaulle, tu viens de dire Clemenceau aussi. Oui. C'était pas le Clemenceau, non?
Non, c'était Charles de Gaulle.
C'était le Charles de Gaulle,
oui.
Qui a été mis en service assez tôt. Alors,
Ça fait déjà pas mal de temps qu'il est en service.
Ah oui, parce qu'il doit être...
Il y a eu effectivement le Foch et le Clemenceau.
Et le Clemenceau.
Oui. J'ai un de mes frères, du reste, qui a fait son service militaire à bord du Clemenceau, et qui avait une place en or. Il était le serveur particulier au restaurant de l'amiral à bord.
Ah bah.
Voilà. Et il me disait en rigolant, tiens, quand j'apporte le dessert, en dessous, j'ai la feuille de permission que l'amiral va signer.
Donc, alors, bon. Excusez-moi, mais... Attendez, dernière question. On la passe en vitesse parce que je vois le temps qui passe là et...
Non, mais on va revenir sur la loi de programmation, la nouvelle. Voilà,
la dernière, parce que oui, c'est aussi la plus importante, parce que c'est l'actuelle.
Allez-y.
Enfin, les deux dernières.
Alors attendez, voilà, bon, je lis la question. Une petite remarque d'un auditeur. À propos des lunettes chinoises à moins de 50 euros, j'ai acheté deux paires avec monture tout en titane, de fabrication très soignée et solide, l'une avec verre Varilux et anti-UV, l'autre traitée anti-reflet, anti-rayure. Plus une paire de style Ray-Ban avec verre fumé, montre titane, le tout pour 170 euros. Oui, alors là, effectivement, bah, quand on compte le nombre de lunettes, oui, ça fait un petit peu moins cher. Voilà, y a 4
mais les lunettes 200. À 50 euros, c'est voilà. Deux paires pour 50 euros, oui, pour oui, moins oui, de 50 euros.
Et c'est chinois, c'est ça qui veut
oui,
dire
bien sûr.
Oui, oui.
Il y a de la publicité actuellement dans toute la presse.
Mais on ne fait pas de la publicité chinoise à l'antenne.
Voilà. Non,
voilà, surtout pas. C'est la fin de la phrase.
Ah, la question.
Dans une agence d'une firme allemande.
Allemande.
Bah oui, mais ça, on sait que l'Allemagne, c'est acharnante.
Oui, alors,
c'est acharnante. Ça n'a pas trop de rapport avec notre loi de programmation militaire.
Non, mais sur l'Allemagne, on pourrait dire beaucoup de choses. Et
oui, je vais en parler un petit peu au niveau des budgets consacrés. C'est intéressant. Bon, on va passer aux deux dernières lois de programmation qui sont celles du président Macron. Je dois avouer que j'ai été extrêmement surpris de voir, après cette traversée du désert, deux lois de programmation sous la direction, sous la décision du nouveau président de la République. Et il a dit quelque chose, il a fait un constat. Bon, c'est un constat politique. Depuis 20 ans, le budget de la défense a été progressivement réduit et les effectifs réduits également. Il faut que ça change. Bon, c'est très politique, hein. Bien sûr, c'est une façon d'envoyer un boulet chez les prédécesseurs. Bon, mais cette première loi de programmation militaire du président Macron était celle de 2009 à 2014. Donc, elle était... attendez que je ne me trompe pas. Pardon. 2014-2019. 2014-2019. C'était donc avant, c'était juste après la fin de la guerre froide de 91.
Oui.
Donc, autant les prédécesseurs, les tout premiers avaient pris leur temps pour prendre une décision. Là, il y a eu Jacques Chirac qui a pris la décision à la baisse, donc il a un peu massacré, il faut le dire, hein, malgré tout le respect que je peux avoir pour lui, il a quand même un peu massacré nos armées. Hein. Eh bien, derrière, il y a quand même eu un président, on peut toujours dire ce qu'on veut, hein, mais on peut reconnaître que cette première loi de programmation militaire de 2009 à 2014, qui a été...
Elle a commencé avec Sarkozy, alors là.
Où la loi de programmation militaire a été signée.
Oui.
Qui était le président en place ?
Eh bien, c'était Sarko.
Alors, attends, parce que, bon, on a de mémoire, Sarkozy.
Mais oui, c'est Sarko.
Était donc en 2007-2012.
Oui, il est parti en 2012.
Voilà.
Et ça a commencé avec Sarko.
Non, parce que c'était en 2019 que je parlais.
Ça se terminait en 2019. Et ensuite,
je parle de la loi de programmation militaire oui. 2019-2025.
Oui.
C'est ça là, qui m'intéresse.
Oui.
C'est celle qui a été lancée par Macron.
Oui.
Ben, c'est celle qui a été lancée par Macron parce que les précédentes, après la chute brutale du président Chirac, il y a eu deux présidents, Sarkozy et Hollande, qui ont remonté un petit peu la pente. Mais pas vraiment. Mais ce qui a été quand même un détonateur, c'est quand même une prise de conscience du président Macron. Qui a bien senti qu'en 2019, il y avait des choses qui commençaient à sentir le roussi et qu'il était nécessaire, au vu de ce qu'il avait vu et entendu. Je pense qu'il a été bien entouré, à mon avis.
Possible.
Ce n'était pas un grand spécialiste des problèmes de défense, hein, mais je pense que son entourage proche a dû bien lui conseiller et de lui dire « Faites quelque chose, Monsieur le Président, s'il vous plaît ».
C'est le général de Villiers qui était peut-être en place encore.
Alors, le général de Villiers, il avait démissionné parce que
il
y avait eu des promesses qui avaient été faites, mais qui n'ont pas été tenues.
Qui n'ont pas été tenues, oui. C'est pas aussi simple que ça. Parce que moi, j'ai participé justement du temps de Sarko avec Guénaud, qui était le grand Manitou, etc., dans la cave des Invalides, nous avons participé à une réflexion sur la remontée en puissance. Et j'avais été choisi pour suivre ça. Il y avait des socialistes et moi j'étais l'autre bord. Et à l'époque, l'objectif c'était de dépenser 2% du PIB. 2% du PIB, et on avait critiqué, et c'était avec, je dirais, les retraites, les forces, le paiement,
oui,
le paiement des hommes.
C'est ça.
Oui. Et ça ramenait attention. Immédiatement l'effort de défense à 1,6-1,7.
Oui.
Voilà. Et ensuite, bon, il a fallu remonter bigrement, mais ça a pris du temps. Hein.
Oui, enfin, je pense qu'il y a eu un travail de fond qui a été mené aussi bien par l'entourage proche dont j'ai parlé, mais aussi par un certain nombre de personnes comme nous qui avaient accès
ouais,
directement au GDN et pour dire attention, ça commence à chauffer, on ne peut pas continuer sur cette voie-là, ça va être une catastrophe.
Et surtout que les Américains tannaient pour qu'on remonte le budget de la défense.
Oui.
Et on
déjà.
Était avec le paiement du personnel et même des retraites, on était à 2%.
Oui.
Et donc, c'était absolument insuffisant.
Oui. Eh ben, on verra tout à l'heure, quand j'arriverai à la loi de programmation, que le budget de la défense sera de 2,5% en 2030, avec la loi actuelle. Mais on avait pris un engagement auprès de l'OTAN qu'en 2030, nous aurions 3,5%. Qu'on était incapable d'atteindre de manière aussi brutale. Parce que déjà, comme on va voir maintenant, la remise à niveau a été quand même assez vive. Donc, quand je parle de cette loi de programmation militaire, la première du président Macron, de 2019 à 2025, il a prévu d'abord, la loi de programmation militaire était sur 7 ans, et non sur 6 ans comme avant, ou comme 5 ans, à l'époque de notre cher général de Gaulle, il est monté à 295 milliards d'euros au lieu des 225 de la loi de programmation précédente. C'était quand même une augmentation assez sensible. Et non seulement elle a été sensible, mais en plus, elle a été exécutée comme prévu. Ce qui est rare, parce que quand on voit le nombre de lois de programmation militaire...
C'est l'une des premières qui a été exécutée correctement.
C'est l'une des premières qui a été respectée. Et en plus... comme le président a dit, il se plaidait que depuis 2 ans, les budgets de la défense avaient diminué de manière régulière et que les effectifs avaient été réduits et qu'il fallait que ça s'arrête. Hein. Donc, j'ai envie quand même de lui accorder cette prise en compte dès sa première LPM, la loi de programmation militaire, qui portait la première annuité de 36 milliards d'euros en 2019, à 50 milliards en 2025. Donc avec quand même une progression significative. Mais le problème qui se pose, quand pendant des années, on arrête les commandes de programme, quand on diminue les effectifs, et quand on diminue les effectifs, on supprime des cadres, quand on ferme des casernes, quand on ferme des bases aériennes, c'est quand on veut reconstituer à la hausse, il faut reformer les cadres, il faut embaucher des militaires, et surtout, il faut relancer les capacités industrielles qui sont capables de répondre aux besoins urgents de matériel et de munitions.
Absolument.
Ça ne se fait pas sur un coup de sifflet bref. Désolé de le dire, mais ça, on est tous d'accord. Il faut du temps. Moi, j'ai bien vu dans l'industrie que quand il y avait des programmes qui étaient arrêtés ou des programmes déjà commandés, mais qui n'étaient pas payés, le nombre de fois où l'État, qui était un très mauvais payeur, il faut le dire, hein, Jacques le sait très bien. L'industriel, lui, il a besoin de cet argent pour payer son fonctionnement, payer ses employés, payer ses ingénieurs, payer ses bureaux d'études. Donc, ça ne se fait pas de manière aussi facile. Alors, donc, direct pour le président actuel, pour sa première loi de programmation, qui a manifesté une prise de conscience et une action. Et elle a été exécutée, celle-là. Et l'actuel, donc on vient au centre du sujet qui nous concerne directement, c'est celle de 2024-2030. C'est une loi qui a été adoptée en 2024. Je ne sais pas si, Jacques, tu étais encore à l'Assemblée.
Non, je n'étais pas. Elle est intéressante parce que J'ai sous les yeux, pour rien te cacher, un rapport d'information qui est intéressant, qui a été fait par Yannick Genevard et Sébastien Saint-Pasteur, et qui est intitulé « LPM 2024-2030, une trajectoire à consolider ». On voit très bien, oui. Et il y a des choses intéressantes dedans, et notamment un changement aussi de la stratégie. Tu te souviens qu'il y a eu cette histoire de la journée de la défense qui a été vendue, entre guillemets, comme le « ersatz », c'est-à-dire le substitut, et pour se donner bonne confiance pour intéresser des jeunes à ce que pourrait être le métier des armes. Et ça a été un flop merveilleux. Et il a été mis en place les réserves sur lesquelles moi, j'avais tiqué. Et un jour que j'ai rencontré le général qui commande et qui met en place les réserves, je lui dis, vous êtes sûr que les réserves, parce que souvent, ce sont des cadres dans des sociétés que vous allez pouvoir les avoir et que si ça chauffe, les sociétés vont vous dire... On les garde parce qu'on en a besoin pour faire tourner nos industries. Et il m'a dit, non, ça, les sociétés et l'industrie préfèrent nous les prêter plutôt que de les qu'ils soient réquisitionnés. Et donc les réserves, et notamment dans cette dernière loi, et il est prévu que ça monte à c'était 80 000, 100 000 et peut-être 150 000. Et ça, c'est un... Je dois dire, j'ai changé d'avis. Parce que je crois que les réserves, c'est effectivement pour les armées, compte tenu du fait qu'on ne peut pas avoir les classes d'âge, on ne peut pas réarmer le service national parce qu'on n'a aucune caserne pour les loger, etc. Et que ça passerait mal dans l'opinion publique.
Absolument.
Donc les réserves, ça me paraît être une réponse adéquate pour... permettre, je dirais, en cas de coup dur, aux armées de faire face.
Oui, d'autant plus que les réserves sont constituées de personnes qui ont déjà servi.
Qui ont déjà servi.
Qui ont déjà la connaissance des armes, du maniement du fusil ou autre fusil mitrailleur. Donc, ce ne sont pas des appelés qu'on peut utiliser. Et ce qu'on verra aussi dans cette loi de programmation militaire 2024, c'est qu'on réinstaure non pas le service militaire obligatoire, mais un service militaire volontaire.
Oui.
Bon, ça, c'est peut-être aussi une manière un peu indirecte de récupérer des jeunes, parce que je crois qu'on peut trouver des jeunes
prêts à un service militaire. Les contrats, on a bien vu que les contrats qui sont signés avec des volontaires, malheureusement, il faut les garder. Et il y a malheureusement une perdition en ligne. D'où la nécessité véritablement de mettre en place quelque chose où les gens retrouvent des fonctions, un métier dans la vie civile, mais qu'ils sont bien évidemment aptes à revenir en cas de coup dur.
Voilà, mais c'est un peu l'esprit de cette nouvelle forme de service militaire volontaire qui coûte cher, parce que je pense qu'ils sont payés autour de 800 euros par mois, qui représente un coût, et le service militaire dure 10 mois. Bah, l'essentiel, c'est qu'on leur apprenne à manier un fusil, à viser correctement, à faire des démarches comme nos Kabyles d'antan, qui étaient capables de faire 40 km par jour, sans problème. Bon, c'est ça, avoir des conditions physiques déjà utilisables.
Absolument.
Tu vois, regarde ici, dans la loi de, le projet de loi de finances pour 2025, il y a notamment dit que la puissance de la réserve opérationnelle, les effectifs des réservistes devraient s'élever à 80 000 en 2030, à un objectif de 105 000. C'est-à-dire que c'est véritablement les réserves qui vont être, je dirais, l'appoint nécessaire aux armées, compte tenu de l'impossibilité de mettre un terme à la suspension du service national.
D'autant plus qu'avec l'opération Sentinelle, on voit tous les jours des patrouilles dans les rues, et ben, ce sont des militaires qui sont des militaires d'actifs, professionnels, et qui reviennent d'opérations extérieures. Donc on demande à ces militaires non seulement de faire leur durée sur des théâtres d'opération. Et quand ils rentrent chez eux, ben, le repos, ben, dommage, vous allez aller dans les rues pour faire le sentinelle. Donc moi, je verrais très bien l'utilisation de réservistes pour rester sur le territoire national, parce que l'esprit qu'on a retenu pour ces réserves, ces services militaires, c'est de ne pas les utiliser en opération extérieure.
Exact. Exact. Alors, il faut que tu saches que ça a été débattu, la possibilité d'avoir justement l'armée en tant que force d'appoint sur la sécurité intérieure a été extrêmement difficile à admettre. Et les socialistes n'aimaient pas du tout ça, il faut le savoir. Bon, c'est passé, mais c'est pas sans risque. Et comme tu viens de le dire, il vaudrait mieux que ça soit des réservistes qui sont, je dirais, qui connaissent le Landerneau que des gens qui rentrent, qui sont appelés à intervenir à l'extérieur.
D'autant plus qu'on a fait une armée de métier.
Voilà.
Qui rappelle le général de Gaulle. Il a écrit « Vers l'armée de métier ». Eh ben, on a fait des gens de métier parce que ce sont des professionnels qui sont vraiment de très haute qualité, comme moi j'ai pu le voir au Tchad. Hein,
c'était... Alors, je voudrais reprendre la conversation qu'on a eue avant. C'est que vers l'armée de métier, c'est que nos militaires, il y a eu beaucoup de critiques lorsqu'ils recevaient une classe d'âge parce qu'il y avait des gens, il fallait leur apprendre à être de bons citoyens, etc. Et les militaires répondaient, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour suppléer les manques de l'éducation nationale.
Absolument. Bon, donc c'est un des aspects, le service national volontaire, c'est un des aspects de cette loi de programmation donc 2024-2030, parce qu'il y a d'autres décisions beaucoup plus importantes qui relèvent du domaine opérationnel, vraiment. Et donc, la loi 2024-2030, je ne sais pas si j'ai déjà indiqué le chiffre, parce qu'on parle beaucoup, mais c'est... oui, alors, je veux dire que cette loi de programmation militaire avait été adoptée en juillet 2024 avec une majorité plutôt très forte. À l'Assemblée nationale, 408 pour, 87 contre. Je ne vais pas vous demander qui étaient les 87, je les devine. Hein. Bon, et au Sénat, 315 pour, 17 contre. Donc, cette loi de programmation militaire 2024-2030 a été acceptée par nos représentants à une très forte majorité, ce qui est quand même intéressant et rassurant pour le président de la République. Bon, ça voulait quand même mettre noir sur blanc, qu'on prenait en compte de manière définitive que la guerre de haute intensité était à faire partie du paysage de nos armées et que le petit modèle qui était en retenue jusqu'à présent, le modèle Banzai, était arrangé aux oubliettes, mais il faudra du temps pour remettre cette... Bon, mais... Ensuite, au niveau donc de l'argent, nous sommes passés de 295 milliards de la loi de programmation initiale à 413 pour celle-là. Ce n'est pas rien.
Et bon, dans la dernière loi de finances, ça a augmenté encore de 6,5 milliards.
Oui, bon. Alors, c'est parce que dans les... j'y viens.
Hein, pardon.
Dans les 413 milliards, il y a donc 400 milliards qui sont budgétés, hein, parce que c'est, y a deux parties complètement différentes. Et les 13 milliards supplémentaires reviennent, par exemple, de ventes d'immobilier du ministère de la Défense, choses comme ça. Bon, c'est ce qui est écrit dans la loi, 13 milliards. Moi, je compte surtout sur les 400 milliards budgétés.
Oui, mais bon, alors on devrait quand même poser à ce stade, parce que effectivement, c'est la menace. C'est là où j'ai quand même quelques interrogations.
Moi aussi.
Parce que nous présenter les Popov comme étant des gens qui vont attaquer, il y a eu tout un tas de gens, même les Allemands, disant on craint une attaque dans les 2-3 ans, etc. C'est pas très sérieux. Je le dis comme je le pense. C'est pas, ça ne veut pas dire qu'il peut rien se passer. On sait très bien que dans les pays baltes, il y a des faiblesses. Parce qu'il y a notamment en Lituanie, il y a 40% de la population, ce sont des Russes.
Absolument.
Voilà. Je ne crois pas à une attaque frontale des Popov. Je n'y crois pas. Et il y a même, je crois que il y a une certaine manipulation.
Bon, le problème est de savoir Bon, quand on voit les résultats de l'armée russe en Ukraine.
Quel est l'état de l'armée soviétique?
Mieux faire, hein. Ça fait 4 ans que la guerre a commencé et ils n'ont pas tellement progressé.
Non.
Bon, mais je pense, mais on va vite oublier ce sujet, que dans l'esprit des Russes, ils voulaient récupérer tous les territoires qui avaient été retirés de la Russie traditionnelle pour être rattachés à l'Ukraine. On retrouve le Donbass, on retrouve la ville d'Odessa et on retrouve la Crimée. Ces 3 territoires ont été annexés à l'Ukraine parce qu'à l'époque, les dirigeants soviétiques avaient dit « mais l'Union soviétique va durer
C'était
des millions d'années ».
C'était un rattachement administratif au sein de l'URSS.
Oh, oui, mais c'est parce que c'était l'URSS et les dirigeants disaient « l'URSS va durer des millions d'années » comme en Égypte.
Messieurs, je vous remercie. Mon général, je vous remercie.
C'est terminé?
Non, c'est fini.
L'histoire est sans fin.
Juste un mot. Tout ce qui figure dans la loi de programmation militaire, que je n'ai pas pu développer parce que j'ai trop parlé, ça j'en suis
mais
conscient.
Mais non, on y reviendra.
Mais je la mets sur le site
du Forum pour la France et du CNR. Et
donc il y a tout le détail.
Prochaine émission.
Alors, prochaine émission.
S'il vous plaît, on ne va pas y...
Prochaine émission, très exactement le mardi 9 juin.
Chers auditeurs, nous vous remercions de votre fidélité.
Allez, haut les cœurs, le combat continue.
Absolument.
D'entendre le libre journal de la France Libre dirigé par Henri Foucoureau, assisté d'Alain Rouhou, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 12 mai 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.